VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En RCA, troisième jour ce lundi de la campagne pour le premier tour des législatives du 14 février prochain. Mais 72 heures après le lancement officiel, les activités électorales sont très réduites dans la capitale Bangui. Certains candidats affirmant ne plus avoir les moyens financiers pour battre campagne. D'où une concertation aujourd'hui sur l'organisation des élections du 14 février qui a regroupé des formations et des associations politiques, la société civile, les pouvoirs publics et les candidats aux législatives. Certains participants ont notamment dénoncé ce qu'ils ont appelé l'ingérence du gouvernement dans la gestion des précédentes législatives annulées par la Cour constitutionnelle. En RDC, le ministre de l'Intérieur a annoncé le lancement de la révision du fichier électoral pour le 10 février. Cette opération technique pourrait prendre jusqu'à 13 mois, ce qui rendrait presque impossible la tenue de la présidentielle d'ici fin 2016, comme le prévoit la Constitution. Idriss Fall a recueilli la réaction d'Emery Damien Kaliroy, président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est une déclaration de guerre que le régime de M. Kabila et ses suppôts viennent de lancer contre le peuple congolais qui souffre de la mauvaise gestion du régime Kabila depuis 15 longues années. La face cachée de la déclaration faite par M. Évariste Boshab, il s'agit tout simplement de contourner insidieusement le prescrit de la Constitution qui ne permet pas à M. Kabila d'aller au-delà de son ultime mandat. Et ça, les Congolais ne vont pas accepter.
Emery Damien Kaliroy, président de la coalition des Congolais pour la transition. Direction le Tchad maintenant, pour parler de la situation des réfugiés sur place. Le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés dans le pays a tenu une conférence de presse ce week-end à N'Djamena. Bilan et perspectives en matière de protection et assistance aux réfugiés soudanais, centrafricains et nigérians étaient au centre des débats. Plus de détails avec André Kodmajinga, notre correspondant dans la capitale tchadienne.
Le Tchad est le quatrième pays en Afrique à accueillir plus de réfugiés sur son sol, selon le représentant du SR au Tchad, Josué Antonio Kanandola. Pour lui, plus de 370 000 réfugiés repartis en quatre groupes vivent sur le territoire tchadien. Pour mieux les prendre en charge, le représentant du SR informe que son institution les classe en deux catégories en tenant compte de leur situation. Il s'agit de réfugiés soudanais et centrafricains qui ont plus ou moins les mêmes problèmes.
Nous avons défini pour ces deux groupes de réfugiés, première chose, c'est la protection effective que nous et l'État tchadien donnons à ces réfugiés. La deuxième chose, c'est l'assistance, c'est leur donner tout ce dont ils ont besoin pour avoir une bonne santé.
Ensuite, il y a les réfugiés urbains qui vivent en N'Djamena et le groupe récent de réfugiés nigérians que le HCR assiste de façon particulière compte tenu de leur situation délicate.
Dans la situation nigériane, il y a un gros problème de sécurité dans la zone du lac. Donc aussi, la protection représente pour nous non seulement la protection légale, mais aussi la protection physique dans la zone du lac. Et puis pour les réfugiés urbains, c'est essayer de voir quels sont les services qu'on peut donner. On ne peut pas assister aux réfugiés urbains en leur donnant l'alimentation, etc., etc. Sinon, ça va créer un camp en ville. Donc tout ce qu'on fait, on se concentre sur la santé et l'éducation.
L'assistance et protection, oui. Mais José Antonio Kanandola estime qu'il faut explorer d'autres pistes pour les rendre libres et autonomes.
Nous avons la tendance d'assister les réfugiés à l'infini, mais à un moment donné, la dépendance de l'assistance humanitaire fragilise l'être humain. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec le gouvernement et les autres organisations pour essayer de donner aux réfugiés les capacités d'autosuffisance, pour redonner la dignité aux réfugiés. Et pour cela, il a besoin de la liberté de mouvement. On est en train de discuter avec le gouvernement pourquoi un être humain doit être gardé dans un camp. C'est historique, mais le camp limite la capacité de l'être humain.
Dans la perspective 2016, des discussions sont déjà engagées avec les bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, afin de relever ce défi, rassure le représentant du SR au Tchad. Il invite par ailleurs les Tchadiens à considérer ces réfugiés comme des êtres humains qui sont dans une situation difficile et non les stigmatiser. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
troisième jour du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de la défense affirment que l'actuel chef d'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est emparé du pouvoir par la force avec l'aide de la France. Le point avec Maëlys Hegel.
Monsieur Gbagbo, 70 ans, est le premier ex-président poursuivi par la Cour pénale internationale avec son co-accusé Charles Blé Goudé. Il est inculpé de crimes contre l'humanité. Il avait refusé de céder le pouvoir à monsieur Ouattara, reconnu vainqueur par la communauté internationale à l'élection présidentielle de fin 2010. Il s'en était suivi 5 mois de guerre qui a fait plus de 3000 morts. Les avocats de Gbagbo accusent la France d'avoir mené l'ex-président à la chute en fournissant des armes aux forces pro-Ouattara, malgré un embargo décrété par l'ONU, ce qui aurait permis aux rebelles pro-Ouattara du nord du pays d'améliorer leur progression. Les avocats de la défense accusent le bureau du procureur de peindre un tableau unilatéral et regrettent qu'aucun responsable du camp Ouattara ne soit poursuivi par la CPI. La défense accuse également le Burkina Faso d'avoir mis en place une campagne de recrutement de mercenaires dès 2010 pour ensuite les transférer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce procès risque de prendre 3 à 4 ans.
Toujours concernant la Cour pénale internationale, lors de leur sommet du week-end à Addis Abeba, les dirigeants africains ont soutenu une initiative kényane visant à un retrait commun des pays d'Afrique de la CPI qui, selon eux, cible en priorité le continent africain. Les précisions de John Lyndon.
Le constat que nous avons fait, a déclaré dimanche le leader tchadien Idriss Déby Itno, nouveau président en exercice de l'Union africaine, c'est que la CPI s'acharne beaucoup plus sur l'Afrique, sur les chefs d'État africains, y compris des chefs d'État en exercice, alors qu'ailleurs dans le monde, beaucoup de choses se passent, beaucoup de violations des droits de l'homme flagrantes, mais personne n'est inquiété. Et le président Déby d'ajouter, selon l'AFP, il y a là deux mesures, deux poids. C'est pour cela que nous avons décidé d'harmoniser notre position en attendant que la CPI prenne la mesure de l'importance de la position africaine sur cette question. Aucune décision légalement contraignante n'a été prise au sommet et il revient à chaque pays africain de décider individuellement s'il quitte la CPI ou non. La Cour pénale internationale a commencé la semaine passée le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, premier ex-chef d'État poursuivi par cette juridiction internationale depuis sa création en 2002. La CPI a ouvert jusqu'à présent des enquêtes sur un total de 8 pays, tous en Afrique.
Au Niger, la campagne électorale pour la présidentielle couplée aux législatives du 21 février prochain s'est ouverte ce week-end, fait manquant un des 15 candidats. Ama Amadou est toujours emprisonné pour une affaire de trafic de bébés. C'est par ailleurs l'incertitude sur le vote de près de 2 millions de Nigériens inscrits sur les listes électorales mais ne disposant pas de pièces d'identité. La question divise la classe politique nigérienne. Des détails avec Ibrahim Tamponné du MNSD Nasara, principal parti d'opposition.
La loi ne l'a pas prévu. Et puisque la loi ne l'a pas prévu, nous pensons qu'il faut respecter la loi. Je ne sais pas si la CENI peut modifier la loi. Il appartient à la CENI d'examiner la situation et de prendre la position qu'elle juge être la meilleure pour le pays. Mais nous insistons pour le respect de la loi.
Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire harakiri?
Mais nous en sommes bien conscients. On assume.
Mais pour le PNDS Taraya, le parti au pouvoir, l'opposition nigérienne fait tout simplement de la diversion. Babacar Sabo, un responsable du parti.
C'est un droit constitutionnel le fait de voter, donc les dispositions réglementaires ne peuvent pas être au-dessus de la constitution. C'est une omission au niveau de la loi. Les juristes appellent ça même une erreur matérielle. L'opposition, en réalité, ils sont pour que les 1 200 000 votent, mais ils veulent faire de la surenchère de la politique et puis pouvoir remettre en cause les résultats.
Des propos recueillis à Niamey par notre correspondant sur place, Abdulrazak Irissa. Et pour terminer, campagne électorale aux États-Unis, le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton sont en tête des sondages en ce qui concerne les caucus dans l'Iowa ce soir. Idriss Fall.
D'après le dernier sondage réalisé par le journal Des Moines Register, Hillary Clinton est préférée par 45% des démocrates de l'Iowa qui vont participer ce soir au caucus. Et elle est talonnée par le sénateur Bernie Sanders qui a la sympathie de 42% des démocrates. Il séduit la jeunesse avec sa dénonciation de la classe des milliardaires et son appel à une révolution politique. Côté républicain, Donald Trump recueille 28% des intentions de vote devant Ted Cruz, sénateur du Texas avec 23%. En troisième place, Marco Rubio, sénateur de Floride qui recueille 15% des intentions de vote.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.